Le géant au miroir.
Il voulait se montrer, mais également se voir. Il voulait que sa belle épouse, la comtesse, que ses trois fils, Jean, Jacques et Robert, dont l'aîné à 8 ans promettait déjà de devenir grand et fort, il voulait que ses écuyers, les valets de chambre et tout son hôtel qu'il avait amené avec lui de Paris, le contemplassent bien dans l'éclat de sa splendeur. Mais il désirait aussi s'apparaître et s'admirer. À ce faire, il avait demandé tous les miroirs trouvables dans les bagages de son escorte. Miroirs d'argent poli, ronds comme des assiettes, miroirs à manches, miroirs de vitre sur feuilles d'étain, coupés à l'octogone dans un cadre de vermeil, et il les avait fait suspendre les uns auprès des autres à la tapisserie de la chambre qu'il occupait. L'évêque d'Amiens serait bien content lorsqu'il verrait son beau tapis à images lacéré par les clous qu'on avait plantés dedans. Mais qu'importait ? Un prince de France pouvait se permettre cela. Monseigneur Robert d'Artois, seigneur de Conches et comte de Beaumont-le-Roger, souhaitait se contempler dans son costume de père qu'il portait pour la première fois. Il tournait, virait, avançait de 2 pas, reculait, mais ne parvenait à saisir sa propre image que par fragments, comme les morceaux découpés d'un vitrail. À gauche, la garde d'or de la longue épée, et un peu plus haut à droite, un morceau de poitrine où, sur la côte de soie, étaient brodées ses armes. Ici, l'épaule à laquelle s'accrochait par un fermail étincelant le grand manteau de père, et près du sol, les franges de la longue tunique retroussée par les éperons d'or. Et puis, tout au sommet, la couronne de père à 8 fleurons égaux, monumentale, sur laquelle il avait fait sertir tous les rubis achetés à la vente de feu la reine Clémence. « Allons, je suis dignement vêtu !» déclara-t-il. « C'eût été pitié vraiment que je ne fusse pas père, car la robe m'en sied bien. » La comtesse de Beaumont elle-même, en tenue d'apparat, semblait ne partager qu'à demi l'orgueilleuse allégresse de son époux. « Êtes-vous sûr, Robert, demanda-t-elle d'une voix soucieuse, que cette dame arrive à temps ?»« mais certes, répondit-il. Et si même elle n'arrive pas ce matin, je n'en vais pas moins clamer ma requête et je présenterai les pièces demain. » La seule gêne qu'éprouvait Robert en son beau costume lui venait d'avoir à le porter par la chaleur d'un été précoce. Il suait sous ce harnois d'or de velours et de soie épaisse, et bien qu'il se fût baigné le matin aux étuves, il commençait de répandre un fort parfum de fauve. Par la fenêtre, ouverte sur un ciel éclatant de lumière, on entendait les cloches de la cathédrale sonnant à la volée et dominant le bruit que peut faire dans une ville le train de Saint-Croix et de leur cour. Ce 6 juin de l'an 1329, en effet, 5 rois étaient présents à Amiens. De mémoire de chancelier, on ne se souvenait pas de pareille entrevue. Pour recevoir l'hommage de son jeune cousin d'Angleterre, Philippe VI avait tenu à inviter ses parents ou alliés, les rois de Navarre, de Bohême et de Majorque, ainsi que le comte de Hainaut, le duc d'Athènes et tous les pairs, ducs, comtes, évêques, barons et maréchaux. 6 000 chevaux du côté français et 600 du côté anglais. Ah, Charles de Valois n'aurait pas désavoué son fils, ni son gendre Robert d'Artois, s'il avait pu voir cette assemblée. Le nouveau connétable, Raoul de Brienne, pour son entrée en fonction, avait eu la charge d'organiser le logement. Il s'en était tiré au mieux, mais il avait maigri de 5 livres. Le roi de France occupait avec sa famille le palais épiscopal, dont une aile avait été réservée à Robert d'Artois. Le roi d'Angleterre était installé à la même maison, les autres rois dans les maisons bourgeoises. Les serviteurs dormaient dans les couloirs, les écuyers campaient autour de la ville avec les chevaux et les trains de bagages. Une foule innombrable était venue de la province proche, des comtés voisins et même de Paris. Les badauds passaient les nuits sous les porches. Tandis que les chanceliers des 2 royaumes discutaient une dernière fois des termes de l'hommage, et pour tomber d'accord au bout de leurs palabres sur l'impossibilité d'arriver à rien de précis, toute la noblesse d'Occident, depuis 6 jours, s'amusait de joutes et de tournois, de spectacles joués, de jongleries, de danses, et festoyait en de fantastiques ripailles qui, servies dans les vergers des palais, commençaient au grand soleil pour s'achever aux étoiles. Des ortillonnages de lamiennois arrivaient par barques plates poussées à la perche sur les étroits canaux, des monceaux d'iris, de renoncules, de jacinthes et de lys, qu'on déchargeait sur les quais du marché d'eau, pour aller les répandre dans les rues, les cours et les salles où devaient passer les rois. La ville était saturée de parfums de toutes ces fleurs écrasées, de ce pollen qui collait aux semelles et qui se mêlait à la forte odeur des chevaux et de la foule. Et les vivres, et les vins, et les viandes, et les farines, et les épices. On poussait les troupeaux de bœufs, de moutons et de porcs vers les abattoirs, qui fonctionnaient en permanence. D'incessants charrois apportaient dans les cuisines des palais daims, cerfs, sangliers, chevreuils, lièvres et tous les poissons de la mer, les esturgeons, les saumons, les bars, et la pêche de rivière, les longs brochets, les brèmes, les tanches, les écrevisses, et toutes les volailles, les plus fins chapons, les plus grasses oies, les faisans aux couleurs vives, les cygnes, les hérons en leur blancheur, les paons ocellés. Partout, les tonneaux étaient en perse. Quiconque arborait la livrée d'un seigneur, fût-ce le dernier laquais, faisait l'important. Les filles étaient folles. Les marchands italiens étaient venus de toutes parts à cette foire fabuleuse qu'organisait le roi. Les façades d'Amiens disparaissaient sous les soieries, les brocarts, les tapis pendus aux fenêtres pour pavoiser. Il y avait trop de cloches, de fanfares et de cris, trop de palefrois et de chiens, trop de victuailles et de breuvages, trop de princes, trop de voleurs, trop de putains, trop de luxe et trop d'or, trop de rois. La tête en éclatait. Le royaume se grisait de se contempler en sa puissance, comme Robert d'Artois se grisait de lui-même devant ses miroirs.